Alors bonjour à tous. C'est pour moi un honneur d'être ici devant vous. Donc comme on l'a dit, je suis étudiante à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Je n'ai jamais vraiment regardé les Jeux Olympiques, c'est pas quelque chose qu'on fait dans ma famille ensemble, mais c'est une activité commune que les étudiants de ma faculté prennent plaisir à faire, donc ben, j'ai suivi le courant et on s'est regardé plusieurs épreuves de sportifs. En regardant leurs performances physiques et voir les compétences qu'il fallait pour pouvoir produire de pareils exploits, c'est pas possible de nier les talents incroyables et les capacités à faire de grandes choses mises dans l'homme par Dieu. Mais comment faire pour que ces grandes choses soient faites pour la gloire de Dieu? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. J'aimerais tout premièrement vous parler d'un événement biblique qui avait pour but l'unité entre les hommes et un désir de s'approcher de Dieu, un désir de faire quelque chose de grand avec son frère à côté de nous. Peut-être que quelques-uns devinent de quoi je parle. Je parle de la tour de Babel. Nous allons lire le texte ensemble de Genèse 11, 1 à 7. Genèse 11, 1 à 7 pour ceux qui lisent dans leur Bible, et je lis en version second 21. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et tous ont une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Premièrement, nous pouvons nous concentrer sur le désir ardent des hommes à faire quelque chose de grand. Ils avaient réellement envie de s'unir et de grandir en tant que communauté, mais ils avaient également le désir d'une gloire humaine. On peut l'observer dans leur spontanéité de leurs gestes. Ils se consultent entre eux sans y inclure Dieu, qui pourtant était présent dans les textes précédant ce passage, notamment durant le déluge. Dans le verset 4, on peut le relire ensemble, ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ils sont spontanés, ils veulent être les uns avec les autres, ils ont des rêves de grandeur, d'impossible. On peut limpidement observer la motivation de leur création. Ils veulent être grands, forts, des hommes. La volonté de plaire à Dieu et de l'inviter à vivre avec eux est secondaire, mais peut s'observer dans une interprétation plus historique. Cette tour peut s'apparenter à une ziggourate. Une ziggourate, dans le monde babylonien, est la tour centrale de la ville qui est dédiée à une divinité. Elle est construite de manière à être la plus haute structure de la ville et est censée faciliter la venue de ladite divinité vers les humains. Donc, en quelque sorte, comme une connexion avec Dieu, qui descendrait dans cette tour pour séjourner parmi les hommes. Les créateurs de Babel l'ont donc également construite afin d'inviter la présence de Dieu parmi eux. Dieu est en effet descendu dans ce projet, mais n'a pas été satisfait de leur initiative humaine. En babylonien, Babel veut dire « porte de Dieu ». Ça en jette, non? C'est classe, c'est beau, c'est grand. Mais en hébreu, Babel veut dire « tout perdu, embrouillé ». Dans le langage humain, c'était quelque chose de magique, de magnifique, de fort, de sublime. Dans le langage divin, c'est... Vous êtes paumés, les gars. Hein. Ils étaient perdus dans leur chimère de grandeur. Donc en fin de compte, la tour de Babel était en quelque sorte pour Dieu, mais certainement pas de Dieu, ni par Dieu. Maintenant, comparons cet événement avec l'Arche de l'Alliance et plus particulièrement sa création. L'Arche de l'Alliance est le coffre précieux et élaboré, créé afin d'accueillir les tables de la loi reçues par Moïse. Le coffre est ensuite rangé dans le Saint des Saints du Temple de Salomon. Elle peut être considérée comme le trône de Dieu, sa présence parmi les hommes. En somme, une création pour Dieu, de Dieu et par Dieu. Lisons ensemble ce que Moïse dit à son peuple à propos du Créateur de l'Arche de l'Alliance, en Exode 35, versets 30 à 35. Exode 35, 30 à 35, je lis toujours en version second 21. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. De graver avec les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Holiab, fils d'Ahissamac de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu et pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Betsalel était un homme de talent. Il était habile, intelligent, doué pour toutes sortes de travaux, capable d'inventer avec des dons d'enseignement, au service du sanctuaire et conforme à tous les commandements de l'Éternel. Il est important de noter que Betsalel est l'un des premiers hommes de la Bible à avoir reçu une onction particulière de la part de l'Esprit-Saint pour accomplir une tâche, comme on a pu le voir dans le texte précédemment. Betsalel n'a pas attendu d'être appelé par Dieu pour devenir l'homme accompli qu'il était lors du texte lu. En effet, tout cela se passe avant même la création de l'Arche de l'Alliance. Il n'a pas attendu le feu vert de Dieu pour entraîner ses talents et devenir un artisan hors pair, en enseignant, accompli et un mentor. Donc, que peut-on retenir de ce passage? Premièrement, nous pouvons réaliser que Dieu agit en bon nombre de domaines. Je voudrais faire une petite aparté, vous raconter quelque chose qui se passe dans ma vie. Quand je me suis décidée pour des études de théologie, j'ai entendu bon nombre de personnes s'exclamer « Pasteur, c'est le plus beau métier du monde !» ou encore que la théologie fut comme une fin en soi. Le chrétien n'est pas seulement appelé à être dans le pastorat, et quelqu'un qui vit pour Dieu ne sera pas forcément pasteur, et tant mieux. Dieu n'a pas appelé Betsalel à devenir un second Moïse, il l'a appelé en tant qu'artisan exceptionnel et à utiliser ses talents et sa foi pour lui rendre gloire à lui. C'est en tant qu'homme manuel que Dieu avait besoin de lui. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Dans la faculté où j'étudie, nous sommes beaucoup de futurs théologiens et des théologiens, mais il y a aussi également le secrétariat et l'intendance. Notre intendant s'appelle Pierre-Philippe, et il a une bénédiction incroyable pour la faculté. Il a toujours son téléphone allumé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Pour n'importe quel problème, il vient à chaque alarme, à chaque souci électrique, à chaque fuite ou problème de fosse septique. On peut le voir souvent à 22h, 23h en train de s'occuper des trucs les plus dégoûtants de la faculté, alors que sa femme et ses enfants sont chez lui, mais il vient parce qu'il se sent appelé et qu'il prend soin de nous. Il organise la soirée de prière hebdomadaire, toutes les sortes de brunch ou d'apéro, on aime beaucoup ça à la fac. Et beaucoup d'entre les étudiants vont le voir à chaque problème personnel pour ses encouragements et sa sagesse. Nous sommes tous d'accord à la faculté pour dire que Pierre-Philippe est un atout infiniment précieux à l'institution et il est beau de voir un homme servir de tout son cœur là où Dieu l'a placé. Ensuite, les dons viennent de Dieu. Les capacités mises en l'humain viennent toutes du Seigneur Tout-Puissant. Les graines sont implantées par Dieu et c'est avec lui qu'il faut les faire grandir. La manière de lui rendre gloire est donc de les mettre au service de Dieu. Et finalement, il faut être prêt. Bezalel n'a pas attendu d'être appelé par Dieu pour exercer les talents que Dieu avait implantés en lui. C'est uniquement quand Bezalel était déjà un artisan accompli que le Seigneur a pu l'utiliser pour faire sa volonté. Il ne faut pas attendre d'être appelé pour faire fleurir les plants que Dieu a mis en nous. C'est uniquement lorsque nous aurons fleuri que le Seigneur pourra cueillir nos fleurs et en faire quelque chose de beau. C'est donc de notre responsabilité de se tenir prêt. Il ne faut pas attendre le feu vert, il faut se préparer. Permettez-moi une petite parabole. Il y avait deux familles paysannes qui souffraient de sécheresse. Ces deux familles priaient ardemment afin que Dieu leur accorde la pluie. Après des semaines, il plut enfin. Mais seulement une famille avait labouré la terre, semé les graines, en somme préparé la terre à la réception de la pluie, de la bénédiction. C'est seulement cette famille qui eut une récolte abondante, alors que les deux familles reçurent exactement le même nombre de pluies. De même, il faut donc se tenir alerte et s'attendre à ce que Dieu nous utilise en se préparant et en exerçant nos dons. Agissons en conséquence, attendons la pluie, préparons-nous pour la pluie. Maintenant que nous avons pu comparer ces deux textes, il en découle de notre vie de tous les jours. Comment faire pour vivre nos dons pour la gloire de Dieu, concrètement? Alors, j'ai trois points clés à vous proposer, mais j'aimerais tout d'abord parler de la gloire de Dieu en elle-même. La gloire de Dieu est intrinsèquement liée à sa volonté. En effet, la tour de Babel n'était pas la volonté du Seigneur. Elle lui a donc pas rendu gloire. Au contraire, Bezalel a rendu gloire à Dieu, car il a effectué fidèlement sa volonté, comme on peut l'observer dans la suite du texte de l'Exode. Il est donc important de lier ces deux points. Pour lui rendre gloire, il faut faire sa volonté. Et pour faire sa volonté, il faut la connaître. C'est donc ici que l'on rentre dans un véritable challenge. Comment connaître la volonté de Dieu? Et c'est ici que les trois points clés rentrent en jeu. Premièrement, pour connaître la volonté d'une personne, il est important de connaître la personne en elle-même. Connaître sa pensée, ses envies, en somme, ce qui fait que cette personne est cette personne en particulier et pas une autre. Connaître, c'est une histoire de communication. Je suis perdue, pardon. Et c'est la même chose avec Dieu. Pour connaître sa volonté, il est primordial de le connaître lui. Et c'est ici que vient l'immense cadeau de sa parole. Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que si vous vous attendez à ce que quelqu'un vous appelle sur votre téléphone, vous n'allez pas l'éteindre. C'est pareil avec votre Bible. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est silencieux si votre Bible elle est fermée. L'Éternel nous crie et nous parle à travers chaque livre, chaque chapitre, chaque verset. C'est à nous d'écouter et de parcourir ce texte merveilleux. Et laissons inspirer. Observons ce que le texte nous apporte et fait résonner en nous. Soyons sensibles à la parole du Seigneur. Donc les Écritures sont une bénédiction immense de la part du Seigneur. Tout ce qui y est dit est sa pensée et sa volonté. Ce sera indéniablement en accord avec la Bible. Sa volonté, la Bible. C'est un filtre extrêmement utile. Et plus l'on connaît sa Bible, plus l'on connaît Dieu. Laissez pas vos petites cuillères traîner dans vos Bibles. Deuxièmement, et comme l'avait si bien expliqué Nathalie Perrault dans une prédication précédente, le don de la communauté est un atout de taille. En effet, c'est un cadeau voulu par Dieu. Il a voulu que son Église se forme de fraternité et de contact parmi ses enfants. Si l'on regarde les formations des églises anciennes, par exemple, on pourra observer la place centrale qu'occupe la communauté. La vie de ses frères et sœurs en Christ, leur encouragement, comme Myriam Mathé en a parlé dans une autre prédication, sont un bien précieux. Il ne faut pas sous-estimer les bienfaits que peuvent nous apporter nos proches, que ce soit par des avertissements, des conseils, des encouragements ou autres. Nous ne sommes pas tout seuls dans ce chemin vers Dieu. Il serait dommage de ne pas utiliser ce don précieux qu'est notre famille en Christ. Alors, profitons de l'expérience des uns des autres, ainsi que leur sagesse, leur aide et leur compréhension, ainsi que leur encouragement. Enfin, et ce dernier point n'est en aucun cas négligeable, c'est le Saint-Esprit. Quelle bénédiction que d'avoir Dieu parmi nous et en nous. Il est là pour nous guider. L'Esprit Tout-Puissant du Seigneur est venu sur nous il y a environ 2000 ans et n'est jamais reparti. Betsalel, ayant reçu l'onction de l'Esprit, a été guidé par lui pour faire de grandes choses et il n'y a aucune raison pour qu'il ne fasse pas la même chose avec chacun d'entre nous si nous nous tenons prêts et que nous nous préparions à son travail en nous. Tous ces points pour arriver à trois étapes dans la vie de nos dons. La première est d'identifier ses dons. Peut-être ce sera des amis, des parents qui remarquent une certaine facilité dans un domaine. Ce sera peut-être un plaisir tout particulier à effectuer une certaine tâche ou encore toute autre chose. L'important est de discerner quels sont les dons que Dieu a mis en moi. La seconde étape est de les travailler. En effet, les dons ne demandent qu'à mûrir et à grandir. Mais avec beaucoup de travail, l'homme est capable de grandes choses. Et enfin, c'est être attentif à l'appel de Dieu et le laisser utiliser nos capacités pour sa gloire et son plan afin de se rapprocher de lui et de faire avancer son royaume. Tels les athlètes olympiques des Jeux d'hiver dont je parlais en début de prédication, leurs exploits, leurs performances et leurs épreuves, ils ont su discerner leurs talents sportifs innés. On ne peut pas tous devenir snowboarder professionnel, malheureusement. Ils ont dû s'entraîner dur pendant d'innombrables heures afin de pouvoir répondre présent à l'appel de l'Olympe. Il nous faut également faire ce processus. Discerner quels sont les dons que Dieu a mis en moi. S'entraîner. On n'arrive pas à être un artisan hors pair comme Betsalel si on n'a jamais touché un bout de bois ni un bout de métal. Et enfin répondre présent à l'appel de Dieu. J'aimerais vous laisser une minute en silence afin de vous laisser une opportunité pour vous de réfléchir sur les dons que Dieu vous a accordés, la manière de les travailler et où chacun en est dans sa vie personnelle. Je souhaite vous laisser ce texte. Puisse-t-il vous guider durant cette nouvelle semaine. 1 Corinthiens 10 à 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je terminerai dans la prière. Seigneur, merci pour cette journée qui est un don en soi. Merci pour toutes les graines de talent que tu as implantées en chacun d'entre nous. Aide-nous à les discerner, chez nous comme chez les autres, afin de les faire grandir et les mettre au service de ta volonté, de ta gloire, qu'elles te reviennent pour l'éternité. En ton nom, Jésus. Amen.